première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
C'est une phrase de l'écrivain Pierre Gascard, un écrivain qu'on a un peu oublié.
Qui était connu pour son rapport aux animaux.
Pas seulement, il a écrit sur les camps de concentration aussi, sur les végétaux. Il a écrit un livre sur les lichens qui tombent malades dans les années 70, ce qui voulait dire déjà pour lui de la pollution. Et il a écrit ce livre, Les Bêtes, et à la fin de son livre, il y a cette phrase un peu intrigante. À tout instant, l'animal peut changer, nous sommes à la lisière. Et je trouve qu'on peut retourner cette phrase aujourd'hui, dire à tout instant, l'homme peut changer, nous sommes à la lisière, parce que l'animal est en train de disparaître, et c'est à nous d'agir, et on n'a plus beaucoup de temps pour le faire.
Lisière, au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 22 septembre.
Ce mot de lisière que j'ai mis dans le titre de mon livre convenait tout à fait, et pourquoi pas le garder pour l'exposition finalement, au pluriel, lisière. Parce que c'est aussi la lisière entre les artistes outsiders et insiders. Les artistes qui travaillent dans des centres, je dirais, des ateliers de jour où ils se consacrent à l'art, et parmi eux il y a vraiment des grands artistes. Et puis les artistes qui sont parmi nous dans la vie, qui font des albums, qui font des expositions et qui sont présents ici aussi par quelques œuvres très intéressantes qui ajoutent peut-être la dimension la plus politique.
Avec Sarah Cocotte, Caroline Lamarche et Tatiana Vorès. Caroline Lamarche est auteure d'un recueil de nouvelles intitulé « Nous sommes à la lisière » et publié aux éditions Gallimard. Vous avez dit politique ?
Oui, évidemment, l'art est politique. Toujours. Je veux dire, même quand moi j'écris, je publie un recueil de nouvelles qui évoque les rencontres entre des humains en difficulté et des animaux, où on ne sait pas qui est de l'autre. Des nouvelles dont certaines datent d'il y a 20, 25 ans, 15 ans, 10 ans. Les éditeurs ne sont pas forcément preneurs des nouvelles. On m'a dit, ah, bah, ça tombe bien, justement, avec l'effondrement des populations animales, votre livre y tombe bien, mais je n'ai pas attendu. C'est un fil rouge qui court dans toute mon œuvre, c'est l'attention à l'environnement, à la nature. Et par ailleurs, je suis une activiste dans les milieux associatifs depuis aussi une trentaine d'années. Et ce qui est beau, alors, à la fois dans mon travail sur cette exposition et dans ce Goncourt de la Nouvelle que j'ai eu la surprise et la chance d'obtenir, c'est que tout à coup, les deux pans de ma vie et mes deux combats se trouvent réunis, c'est-à-dire la littérature et l'environnement, la nature, les espèces animales en difficulté, c'est-à-dire nous, puisque nous sommes aussi une espèce animale.
Lisière, par Thierry Junicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ce collectionneur dont on a parlé, Mathieu Morin, qui nous a amené des sculptures faites dans du champignon et dans de l'écorce. Et ça vient de l'Himalaya, du Népal. Oui, l'Himalaya est un autre. Donc, auteur inconnu. Donc, voilà, on a des artistes outsiders, insiders, nommés. On a aussi des auteurs inconnus, anonymes, des soldats en bas qui font travail sur des feuilles d'arbres. Ce totem magnifique, ça c'est... Et puis, il y a cet espace-là dans le musée, est toujours laissé à la discrétion du musée, non pas du commissaire. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est qu'ils ont choisi au départ d'œuvres qui font partie de la collection de mettre en scène la ville. Et là, les œuvres, au lieu justement précisément de respirer, comme moi je l'ai voulu dans l'exposition, elles sont toutes serrées l'une contre l'autre dans une sorte de fresque absolument magnifique et colorée, mais on est bien dans la ville, on est dans un espace clos, on est dans quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire oppressant puisque le rideau est ouvert, mais on est dans autre chose. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de marier les deux en quelque sorte.
Caroline Lamarche.
Et lorsqu'on m'a proposé d'être commissaire de l'exposition d'été au musée Art et Marge, chaque été, ils mettent à l'honneur leur propre collection. qui compte, mais je crois, quelque chose comme 4000 œuvres, enfin importantes. Et importante pour un musée qui n'est pas énorme en taille, mais qui pour moi, est, que je trouve magnifique et dont je suis les expositions depuis de nombreuses années. Et donc j'ai eu l'idée à la fois de parler de notre époque, mais aussi d'aller chercher chez les artistes ce qu'ils nous disent de la nature et des bêtes. Le mot lisière s'est imposé dans la mesure où c'est, je trouvais que c'était l'expression la plus poétique pour parler de ce moment d'entre-deux que nous vivons, où tout peut s'écrouler ou au contraire renaître. Et l'équipe du musée était d'accord avec ce titre, qui est évidemment aussi inspiré par le titre de mon dernier livre, qui est un recueil de nouvelles qui parle des hommes et des bêtes, ou des hommes et des femmes et des bêtes. Lisière, au pluriel.
Tiens, Caroline Lamarche, lisière n'est pas clairière. La lisière, c'est...
C'est le bord d'une forêt. C'est là où la forêt s'arrête, où la lumière rentre aussi. La clairière, c'est plus un lieu clos, je dirais, un lieu de protection. La lisière peut être un lieu de grand danger, d'exposition, se montrer ou rester à couvert. On a le choix quelque part. C'est une métaphore du travail de l'artiste. Ses œuvres le montrent, le désignent, mais lui en même temps reste un peu caché. Et ce d'autant plus s'il s'agit d'artistes outsiders, c'est-à-dire d'artistes qui ont... une difficulté d'insertion dans la société, qui ont parfois des problèmes mentaux, des handicaps qui les empêchent de fait de se montrer, d'entrer dans ce grand cirque médiatique auquel nous, les artistes insiders, comme on dit, qui sont dans la société, sommes soumis. Parfois à grand regret, personnellement, je préférais nettement être invisible et qu'on ne lise que mes livres. Et là, nous avons des œuvres qui sont exposées avec simplement le nom de l'artiste, sa date de naissance. Rarement la date de sa mort, ce sont souvent des artistes vivants, raison pour laquelle nous n'avons pas jugé bon de faire une biographie. Ils sont là. Il mène une vie souvent calme, assez recluse, et ce sont vraiment des personnalités très très fortes.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Quelle est votre cinquième ?
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski. Authentique, me tento, me tento, me tento, me stelle.
Le monde invisible.
Tatiana Veres, Veres. Et je suis directrice d'Art et Marche, tout à fait. De retour après un an d'absence.
Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aimerais voir là, si c'était ma maison ? Et j'aimerais que chaque artiste ait son espace, que les œuvres puissent respirer, qu'il n'y ait pas trop de proximité entre eux, qu'il y ait de l'air, qu'on se promène un peu.
J'aime beaucoup le travail de Caroline Lamarche, mais aussi son engagement à la fois pour le climat, je vais dire, à la fois son engagement culturel, son engagement féministe, son regard, en fait, simplement, qui a un regard plein de sensibilité sur les œuvres, sur le musée. Donc on est en lien. Elle était présidente de l'Association des Amis du Musée. Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration aussi.
Caroline Lamarche, quel a été le fil rouge qui a prévalu à l'accrochage et au choix préalable des artistes ou des œuvres ?
C'est le monde animal et le monde végétal, en rapport ou non avec l'humain. Parce que les artistes outsiders sont passionnés, sont immergés dans la nature, très souvent. Si on pense à la S. Kant Atelier, c'est Ensuite, un atelier qui est situé à côté de Vielsalm, en pleine forêt. Et certains de leurs artistes, je pense notamment à Rémi Pirlot, dont j'aime beaucoup l'œuvre, c'est un peu un coup de cœur pour moi, aiment représenter des paysages, des sous-bois, avec une très grande puissance.
Rémi Pirlot, c'est un autre artiste, le Grand Atelier de Vielsalm, vu que c'est leur sous-titre, l'AS Grand Atelier. On a une série de très beaux paysages dans des formats vraiment panoramiques, qui sont dans un des couloirs de l'exposition, avec des couleurs très douces. Alors on repère pas forcément où on est, ça dépend des paysages, mais il y a quelque chose de presque abstrait qui vient habiter ces paysages. On a affaire à du monotype associé à d'autres techniques.
Sarah Cocotte.
Assez peu identifiable, hein, en fait. Mais en tout cas, le monotype est bien visible parce que c'est une technique qu'ils emploient pas mal à l'AS. Donc monotype, une seule impression. Et c'est un peu le principe de la feuille de papier carbone. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un dessin au dos de la feuille de papier carbone. Dessous, on a une feuille vierge. Et puis, s'imprime sur la feuille vierge ce qui a été dessiné par-dessus. Et ce n'est pas un simple dessin qui apparaît, mais c'est un dessin qui a une texture particulière. On voit, par exemple, à plusieurs endroits de ces paysages, des endroits où sans doute la paume de l'artiste s'est déposée, et ça va créer des espèces de nuages de la texture, et donc ça ajoute quelque chose de très beau dans ces paysages, avec ce noir charbon qui donne un côté très intense au dessin. On devine des scènes de forêt, en fait, on est dans la forêt, on voit traverser un cerf, un chevreuil, quelque chose de cet ordre-là. Et il y a un côté inquiétant qui est amené par cette technique, parce que je parlais de ce brouillard, cette espèce de nuage que peut créer le fait qu'on dépose sa paume sur le papier. Ici, on a ce noir charbon, ce brouillard. Ça donne un côté inquiétant, très, très cinématographique aussi. Et en fait, c'est quelqu'un qui part souvent d'images, de films pour travailler, pour créer ses propres images. C'est-à-dire que quand il crée le monotype, il part d'une image existante qui sont souvent des images tirées de films. Alors on pourrait se dire, bah tiens, est-ce que du coup c'est une vraie création ? Parce qu'on pourrait se dire c'est une espèce de photocopie artisanale. Mais en fait, on se rend compte, en se prêtant à la pratique, qu'on peut proposer à 5 personnes la même image et que c'est des monotypes tout à fait différents qui vont ressortir de là. Et que lui, bah, à travers cette technique, il a vraiment réussi à imprimer sa patte, quoi.
Donc les animaux sont très présents et j'avais l'impression qu'on n'avait pas vraiment traité ce thème-là au musée Art et Marge et que le mettre en avant permettait d'amener aussi du coup la question de la biodiversité, de la disparition des espèces, mais de manière subliminale, ce n'est pas une exposition, un message du tout. Il y a simplement quelques mots de moi au début, à côté de la première image de l'exposition qui est un grand singe avec un regard interrogateur, presque accusateur, alors que le tableau est presque naïf et qu'on voit en effet une lisière, la lisière de bois derrière ce grand singe. Et on peut penser à beaucoup de choses, on peut penser à la forêt qui disparaît, on peut penser aux primates qui disparaissent et qui sont pourtant si proches de nous. Mais c'est surtout son regard qui nous interroge et qui, quelque part, fait écho aux quelques lignes, 4-5 lignes, que j'ai voulu placer comme seule intervention de ma part au début de l'exposition. Et à l'étage, il y a une autre phrase qui pour moi est très importante, parce que j'ai marché avec les Jeunes pour le Climat à Bruxelles tout le printemps. Il y a une phrase qui fait partie du manifeste de la Coalition Climat, qui est un groupe de jeunes mené par, entre autres, Yuna Maret, que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour le magazine Wilfried. Et lorsqu'elle m'a dit cette phrase, je l'ai trouvée passionnante et tellement simple. « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. » Parce que si l'animal disparaît, l'homme disparaît, parce que nous sommes nous-mêmes des animaux. Mais il faut que ces jeunes le disent pour que le monde en prenne conscience, puisque le message qui passe toujours dans les médias, c'est ceci ne représente pas un danger pour l'homme,
Et rien n'est dit du danger éventuel sur les espèces animales. Donc, cette phrase-là, très belle, a été aussi copiée en haut. Ce sont les deux seuls... Il n'y a pas grand-chose à lire, en somme. Hein. Vous savez, il y a des expositions, on passe son temps à lire des petits caractères. Et là, non. Il y a d'un côté quatre lignes, de l'autre une seule ligne. Ce serait lisible. Et puis, pour le reste, les noms des artistes. Voilà. Et en petit, ce qui prime, ce qui est fort, c'est vraiment entrer dans chaque pièce et recevoir les œuvres au premier coup d'œil. Recevoir cette émotion, cette présence, et c'est ça que je souhaitais.
Lisière, au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 22 septembre.
En rentrant de cette année où j'étais vraiment dans une bulle dans les montagnes, rentrer à Bruxelles et d'être tout de suite agressée par essentiellement l'odeur de la pollution que j'ai trouvée très 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 forte et découvrir cette exposition donc, que je n'avais pas vue avant mon retour, ben, ça a été vraiment une façon d'adoucir en fait ce retour parce que je trouve justement ça crée une nouvelle petite bulle dans la ville avec donc on n'est pas dans la nature mais ces petites touches de nature, d'évasion en fait vers cette nature qui sont comme je le répète pour moi c'est vraiment le côté très, très sensible, on n'est pas du tout dans l'intellect, on est juste dans quelque chose où on se laisse aller ou à des sensations que nous évoquent les œuvres qu'on découvre. Ben ça a vraiment adouci mon retour et donc je me dis que je ne dois pas être la seule à ressentir ça. Et puis par ailleurs, donc il y a très peu de mots donc dans l'exposition. C'est quelque chose que je trouve très beau aussi dans le regard de Caroline sur les œuvres de la collection du musée, c'est qu'elle dit « voilà, on est trop bavard, laissons les œuvres parler ».
Une artiste qui n'est pas outsider.
Voilà. En fait, il y a quelques artistes comme ça dans l'exposition qui ne sont pas strictement outsider.
Mais il y a quand même juste la petite phrase « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend », qui est tellement, tellement forte et qui, je pense que c'est vraiment un beau rappel de dire on n'est pas en train de défendre une cause par-ci, une cause par-là, mais en fait on défend notre survie en tant que survie globale, pas survie égoïste de l'être humain, survie globale, survie égoïste de notre famille, de notre pays, mais c'est vraiment quelque chose... Nous sommes l'espèce animale... Qui doit se sauver ensemble et de façon solidaire. Et bon, c'est avant tout l'être humain qui l'a détruit, donc c'est peut-être avant tout à l'être humain de se battre pour la défendre.
C'est lié à la philosophie du musée en général. Hein. Art et Marge, on l'a toujours dit, c'est parce que on a envie aussi de questionner un peu la frontière, de mêler des artistes qu'on dirait en marge, et avec des artistes émanant du champ culturel, d'école, d'art aussi. Donc Clara Marciano, c'est quelqu'un qui a fait la Cambre en dessin, qui produit d'immenses dessins, notamment au crayon gris. Et puis, de temps en temps, elle se détend en créant des pattes fimo. Alors ici, on a affaire à un ensemble d'oiseaux répartis dans trois maisons de poupées qui ont été ramassées ici tout près au jeu de balle. Ces oiseaux, en fait, ils sont de toutes sortes d'espèces.
Au rez-de-chaussée, très vite, on a l'œuvre d'une artiste qui n'est pas une artiste outsider, c'est ce qu'on appelle une artiste insider, qui vit dans la société comme vous et moi, qui crée, qui demande des bourses pour créer, qui est une jeune artiste sortie de la Cambre. Elle s'appelle Clara Marciano, elle est française, née en 1990, et j'ai découvert son travail un peu par hasard, et tout de suite j'ai été conquise par... des figurines qu'elle fait en pâte fimo et qui représentent des oiseaux dans une maison cossue, avec une piscine, un barbecue, une cuisine dernier cri. Et ces oiseaux sont en train de jouer au golf avec leurs œufs et de taper sur leur progéniture. Donc c'est une scène extrêmement cruelle qui... de manière un peu, en déplaçant le propos, un peu comme à la manière des fables de La Fontaine, nous montre ce que nous faisons aux générations qui nous suivent. Sauf qu'elle a mis en scène précisément des oiseaux. Or, nous,
faisons disparaître les oiseaux en Europe, en France, en Belgique. Ils ont disparu de 50% en une quinzaine d'années. Et donc le propos est d'autant plus percutant, ironique et terrible qu'il s'agit d'oiseaux qui détruisent leur propre progéniture.
Comme ce sont des oiseaux, c'est leur progéniture qu'ils sont en train de massacrer en s'adonnant à leur loisir. Donc je pense que c'est assez parlant sur le lien qu'on peut faire avec, comme dit Caroline Lamarche, cette époque de lisière, c'est comme ça qu'elle l'a nommée, en disant, ben voilà, on a une époque charnière, un moment charnière, et si on n'agit pas maintenant, ben voilà, les choses seront irréversibles, elles le sont déjà, donc parlant du réchauffement climatique et de la menace que ça fait planer sur le monde.
Je commence par parler des femmes, parce qu'elles sont peut-être moins nombreuses, y compris dans l'art outsider d'ailleurs. C'est un peu une histoire d'hommes, l'histoire de l'art. Mais il y a aussi Laura Delvaux. Alors elle, ce sont des œuvres qu'on a été prendre à la Escant Atelier, à Vielsalm, et elle travaille le textile.
C'est un petit cheval qui a été de la même façon complètement emmailloté dans du tissu, dans des fils de laine, qui paraît presque ligoté même.
Les femmes qui sont présentes dans l'exposition travaillent la céramique, ou travaillent le textile, ou travaillent les plumes et les brindilles.
On le croirait presque sorti d'autres œuvres qui sont sur le mur, et qui sont quatre peintures de Ignacio Carles Tolra. Quatre tableaux de même dimension dans les tons bleu, rose, gris, noir. Chaque fois, la feuille est quadrillée, donc elle présente quatre cases. Dans un des tableaux, on a une bestiole, donc juste une case remplie. Dans le suivant, on a deux cases remplies, donc deux bestioles.
Et alors Laura Delvaux, elle s'est très très colorée. Elle a notamment quelque chose qu'on a eu l'audace de mettre dans l'escalier près d'un mur orange vif. Or, cette espèce de tapis qu'elle a fait avec des grosses fleurs oranges et jaunes et bleues est un peu dans les mêmes coloris. Graphiquement, c'est splendide. Et alors, elle a fait un petit cheval en laine, qui a aussi une présence joyeuse et compacte, et que nous avons déposé sur un tapis de fausse herbe, comme ça, un peu kitsch. Le cheval est tout seul, là, au milieu de cette herbe, et il attire l'œil de loin aussi. Ça, c'est au rez-de-chaussée, voilà. Comme par exemple Aide de Bruyne, qui a fait des attrape-rêves ou des boucliers, je ne sais pas très bien ce que c'est, qui sont des tissages d'herbes sèches, de laine et sur une structure bois. C'est très sauvage et avec des couleurs naturelles, un peu orangées, jaunes, marron.
Après, trois bestioles réparties dans trois cases. Et puis dans le dernier, les quatre cases sont remplies. Donc à chaque fois d'une bestiole. Alors je dis bestiole, c'est le nom que l'artiste utilise pour parler de ses créations, alors à caractère plutôt animal. On ne sait pas s'il s'agit d'une vache, alors plutôt peut-être d'un bœuf, parce qu'on voit qu'il y a un petit appendice qui dépasse là-dessous. Un artiste dont j'aime bien l'histoire et la façon dont il est arrivé à la création, parce que c'était un employé administratif de la Croix-Rouge à Genève. Et à un moment, il est mis en contact des cris de Dubuffet sur l'art brut. Et il se dit, mais c'est formidable. C'est-à-dire, c'est des gens qui créent, qui n'ont aucune formation préalable, qui ne sont pas du sérail, qui ne sont pas issus des écoles, qui n'ont pas grandi dans un milieu qui les a éduqués à l'art. Et qui y vont franchement, qui y vont spontanément, qui créent. C'est de là que lui vient l'étincelle et presque l'autorisation à créer, et se met à créer à ce moment-là. Maintenant, c'est un assez vieux monsieur, je ne sais pas, il faudrait vérifier sa date de naissance sur le cartel, et il continue toujours à produire. Alors, c'est souvent des séries, alors comme c'est le cas de ceci, qui est une série qui fait partie de la collection du musée, là, par exemple.
Toujours dans le thème de la forêt, elle a choisi de prendre ce qu'on appelle des massacres de chevreuils, des crânes de chevreuils en fait, c'est assez macabre, hein, des crânes de chevreuils avec les petites cornes, et elle les a entourées comme ça de laine.
Des œuvres de Laura Delvaux, qui est une artiste de l'AS Grand Atelier, qui est un atelier qui se trouve à Vielsalm dans les Ardennes, et en fait dans les anciennes casernes militaires de Vielsalm. Et c'est un atelier qui a ce site particulier qu'ils invitent beaucoup d'artistes contemporains à travailler avec les artistes porteurs d'un handicap mental qui sont sur place. Et ça crée une esthétique très contemporaine. On voit vraiment que ce sont des personnes qui sont en contact avec de la création actuelle. Et c'est vrai que du coup, c'est des œuvres qu'on peut facilement mettre en galerie et qui vont évoquer quelque chose de très contemporain dans l'esthétique. Et on ne va pas du tout soupçonner que ça peut être des artistes en marge du circuit qui vont produire ça. Enfin, c'est le cas de finalement beaucoup d'artistes qu'on présente ici. Alors, Laura Dalvaux, c'est quelqu'un qui pratiquait d'abord la peinture sur de très grands formats, avec beaucoup de couleurs. On retrouve toujours beaucoup la couleur dans son travail textile, qui s'est vraiment confirmé au moment où, à l'AS, il y a eu un projet qui s'appelait Knitting Dolls, donc tricoter des poupées. Et là, on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte du plaisir qu'elle avait à traiter le textile, et notamment tisser des espèces de boules comme ça à partir de laine. Alors, on a affaire à ça ici. Et en fait, elle a emmailloté des petits crânes de chevreuil, alors probablement retrouvés alentour parce que ils sont au milieu des forêts, à Vielsalm, au milieu de la nature. Et tout ça est emballé, alors on devine qu'il y a un petit peu de tissu dessous, ça devient une boule très compacte, recouverte de plein de fils de laine. Alors on a des couleurs très vives, même du fluo. Alors c'est assez plaisant à l'œil, il y a quelque chose comme ça, de très attirant à l'œil, et à la fin on se dit « Ah ok, c'est effectivement des trophées de chasse, c'est effectivement un crâne d'animal qui a été emmailloté de la sorte. » Aussi, il y a ce côté, c'est un matériau extrêmement doux, enfin, le tissu c'est quelque chose avec, enfin, c'est une chose avec laquelle on entretient un rapport très intime, on est couvert de vêtements constamment, les enfants ont leurs doudous, la nuit on se roule dans nos couvertures, donc il y a quelque chose de rassurant et de doux et d'intime qui est lié à ce matériau, et à la fois ici c'est tellement compacté qu'on imagine bien que même si on fait abstraction des bois de chevreuil ici, si on se prend ça dans la figure, c'est pratiquement une arme, quoi.
Ce qui, là aussi, donne une tonalité humoristique, car ce détourne en quelque sorte cette espèce de poncif du chasseur qui remplit sa maison de massacres de cerfs et de chevreuils. Et elle
on l'appellerait des trophées.
Oui, des trophées, voilà, c'est le mot. Et un peu comme Berline de Bruycker l'a fait d'ailleurs avec les bois de cerfs, ces femmes retournent le trophée. Soit les entourent, les cajolent, mettent du tissu autour, soit ironisent à leur sujet, mais en tout cas, sont dans une position tout à fait opposée à celle de l'homme chasseur. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi.
Amoureux de la nature. Donc Rémi Pierlot, par exemple, c'est une de ces personnes qui vit dans les Ardennes, qui aime se promener en forêt, qui a un contact comme ça à la nature qui est vraiment important pour lui.
L'image que nous avons mise sur le site internet pour présenter l'exposition, c'est un dessin de Gérard Sandré. Alors on ne sait pas très bien ce qu'on voit, si ce sont des plumes, si ce sont des vagues, si ce sont des morceaux de feuillage. On peut prendre son œuvre un peu justement comme une lisière en mouvement. Voilà, plusieurs éléments. L'eau, la terre, le plumage. Mais c'est d'un raffinement et d'une grande virtuosité graphique.
Lisière, au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 22 septembre.
Par exemple aussi le cas d'Alain Delaunay.
Elles sont presque naïves, mais là aussi, sous des dehors, je dirais lumineux, coloré, et une pointe d'inquiétante étrangeté.
Je veux dire des portraits très doux d'animaux, et qui est quelqu'un qui a un amour profond pour les animaux, pour les bêtes. Et donc voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des artistes aussi comme ça dans cette exposition.
Et ce fond, dans les œuvres que j'ai choisies, y compris aussi celle de Rémi Pierlot, quand il représente les sous-bois, il y a à la fois ce sentiment du foisonnement animal et du foisonnement végétal, mais en même temps un fond d'inquiétude. Léger, mais par l'usage de l'encre ou du fusain, ou le regard, simplement, le regard, les attitudes. Je parlais du singe tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous interpelle vraiment, qui n'est pas simplement paisible, qui n'est pas une vision naïve, enfantine, innocente. Nous ne sommes plus dans un monde innocent, nous avons perdu notre innocence. Et quelque part, les œuvres choisies le disent. parce que je crois, maintenant j'ai pas d'interprétation à plaquer sur ces œuvres-là, mais je pense que dans la manière dont ils regardent le monde, ils projettent aussi leur espace intérieur, qui est parfois évidemment tourmenté, on peut le comprendre. Et donc quelque part, leur intimité rejoint une situation planétaire qui nous préoccupe grandement. Quelque part, ces œuvres-là trouvent toute leur actualité. Et je dirais que c'est un peu le sort de mon livre aussi, Nous sommes à la lisière, qui regroupe des nouvelles donc, qui parlent d'animaux en interaction avec des humains dans des moments de crise. Et quand je l'ai présenté à mon éditeur, il m'a dit « Mais ça tombe bien, justement, on parle beaucoup des animaux aujourd'hui, et puis la disparition des espèces, l'intelligence animale. » Mais dans ces nouvelles, il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 15 ans. Donc pour moi, c'est un propos très ancien et une inquiétude très ancienne et une conscience très ancienne de la fragilité de notre environnement. Simplement, ce livre, ce recueil vient à son heure. Il a attendu de nombreuses années et il vient à son heure. Et je pense que peut-être les œuvres de l'exposition aussi viennent à leur heure. Que c'est le moment pour elle d'être rassemblée, de prendre sens dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend.
Et je suis lectrice, alors j'ai découvert la femme avant de découvrir ses nouvelles et ses livres.
Caroline Lamarche, un ouvrage qui se voit couronné du prix Goncourt de la nouvelle.
Oui, j'ai eu cette chance, cette grande chance et cette surprise d'obtenir ce Goncourt de la nouvelle, qui est sans doute le plus grand prix pour un recueil de nouvelles dans le monde francophone. Et le jour où j'étais invitée à me rendre à Paris pour recevoir ce prix, tous les journaux, Le Monde, Le Soir, La Libre que j'avais acheté à la gare, avaient la même une. C'était le fait que les espèces animales étaient en voie de disparition rapide et accélérée. C'était la une de tous ces journaux. Et j'ai eu l'impression ce jour-là que j'étais à la fois remerciée pour mon écriture et aussi pour, je dirais, mon engagement environnemental qui est là depuis 30, 40 ans, à la suite de mes parents.
Quelque part une rencontre entre un humain, entre un personnage de ces nouvelles et un animal, et ce lien qui est vraiment de l'ordre de la rencontre, de l'ordre de la relation quelque part qu'on devrait tous avoir avec le sauvage, je vais dire, même si l'animal est plus ou moins apprivoisé, mais il y a toujours sa part de sauvage qui reste.
Dans la première nouvelle, j'ignorais complètement combien un robot qui tond la pelouse peut être un massacreur.
Oui, ça on peut le dire publiquement sur les ondes. Attention à vos robots tondeuses, il faut les arrêter pendant la nuit parce que si vous avez un hérisson qui croise la pelouse, il va être déchiqueté par le robot tondeuse. Si jamais un canard se pose sur votre pelouse, il va aussi être surpris par ce robot tondeuse. Mais c'est une indication parmi d'autres dans cette nouvelle qui raconte en quelque sorte une histoire d'amour d'un homme avec une canne blessée qu'il rend à la sauvagerie. Et c'est toute la question de l'amour qui est ne pas retenir l'autre, le laisser partir, le moment venu, même s'il est encore fragile, lui laisser le choix du moment, ne pas le prendre pour soi. J'ai travaillé pendant un an à mes moments perdus, surtout le week-end, dans un refuge pour oiseaux blessés. Et on dit toujours, ne vous attachez pas. Ils doivent repartir un jour, on doit les relâcher.
Je pense qu'on est trop coupés. En tout cas, les citadins sont vraiment coupés. On commence à avoir peur beaucoup des animaux parce qu'ils ne les connaissent plus. Alors que cette relation est tellement essentielle, en fait.
Engagement auprès des animaux, engagement auprès de la nature, engagement auprès de l'habitat fragile. Mm-hmm. Toute une jeunesse sort des sentiers battus. On oui. S'offrit une sorte d'utopie, ici et maintenant, un art de vivre qui fait face.
Oui, mais comment dire, c'est peut-être pour ça. Alors oui, dans l'exposition, j'ai voulu aussi mettre introduire la présence de Bouly Lanners, qui est un militant anti-nucléaire, mais aussi pro-environnement, très actif, avec des propos extrêmement pertinents. Et j'ai trouvé sur son Facebook une vidéo assez extraordinaire où il joue de la guitare sur son chien. Donc il explique qu'il est un très mauvais guitariste et qu'il va nous jouer un petit morceau. Et puis on le voit jouer de la guitare sur son chien Griffon, bien patient. Et il chante, il joue de la guitare sur le poil de son chien. C'est magnifique. C'est un moment d'humour, un moment de légèreté. Et je dirais que les trois vidéos qui sont présentes dans l'exposition sont des vidéos d'artistes. Il y a Bouly Lanners, et j'ai placé sous la vidéo le texte d'une interview qu'il a donnée au journal Le Soir, et qui est percutante, très forte. Et chacun peut se servir et lire cette interview. Et puis, il y a aussi la vidéo d'Annabelle Sounier, qui a filmé ses enfants dans les bois. Là aussi, avec une mise en scène à la fois ludique et en même temps légèrement inquiétante. Et les regards de ces enfants nous questionnent véritablement.
Mais il y a quelque chose d'un peu perturbant parce qu'effectivement, on est dans un format qui est vertical. Et donc, ça évoque effectivement quelque chose qui parle de verticalité. Donc, on voit l'eau tomber, on se dit « Ok, c'est une chute d'eau ». Et à la fois, on voit une espèce de mouvement qui va un peu vers le haut, vers la gauche. Et donc, on comprend assez mal ce qu'est en train de faire cette eau. Y a un côté assez hypnotisant.
Et enfin, la vidéo de Jean-Claude Riga. Alors, on ne sait pas si c'est une chute d'eau, si c'est le sillage d'un bateau, filmé comme ça au ralenti, avec une accélération à la fin. Et j'ai trouvé cette vidéo d'une beauté incroyable.
Le rythme a été ralenti, on le sent. Et c'est vrai que ça nous fait rentrer comme ça dans quelque chose. Et au bout d'un moment, je pense qu'on ne se pose même plus la question d'où vient cette eau. On est juste hypnotisé par ce mouvement.
Je vais lire un extrait de la première nouvelle qui est l'histoire d'un homme et d'un canard, ou plutôt d'une canne, qu'il a recueillie. Pour en revenir au jour que nous avons passé ensemble, je précise que quand elle n'était pas occupée à ses petites affaires, elle se reposait dans un coin chaque fois différent. Elle est capable de fermer les yeux au milieu de nulle part, avec une confiance qui contraste avec son agitation à d'autres moments. C'est bien simple. Ce n'est qu'avec elle que je me couche. Je veux dire que je m'allonge sur le tapis du living ou sur l'herbe en plein jour, que je m'autorise ça. Ne rien faire et attendre une sieste. Mais une sieste attentive, une sieste aux aguets, mine de rien. Alors, elle vient à petits pas prudents, et puis soudain c'est la frénésie. Elle est dans mes cheveux, mes oreilles, mes yeux que je dois fermer étroitement. Les coups pleuvent, c'est l'amour fou, ou alors je n'y connais rien. Parfois ça ressemble à une punition, mais une punition qui me fait rire tout en me donnant envie de pleurer. Personne ne m'a grêlé à ce point de baiser, enfin, de baiser à sa manière. On dirait qu'elle voudrait par là exprimer une double pensée. Je veux te quitter, mais je n'y parviens pas. C'est quelqu'un de complexe. Elle a parfois des idées bizarres, des idées de jeune personne sauvage qui cherche sa voie entre son monde et le nôtre. Et ça, c'est tout un travail de discernement. Et c'est elle qui doit le faire, le décider jour après jour, parce que nous, c'est volontiers qu'on la garderait à venir nous taquiner les cheveux, les chevilles et le creux des genoux. Quand je dis nous, c'est surtout moi. Je vis seule, mais c'est nous. Surtout depuis qu'elle a disparu. J'ai besoin d'un nous dans ma vie. Y a-t-il encore des nous dans nos vies? Alors, on avait presque terminé notre choix et on a eu une très jolie surprise. Un collectionneur nommé Mathieu Morin, qui d'ailleurs va être commissaire de la prochaine exposition qui va commencer en octobre au musée Art et Marge, un collectionneur d'art brut, d'art outsider, nous a proposé quelques œuvres comme ça, après avoir pris connaissance du thème de l'exposition. Et nous avons choisi, d'une part, des masques faits dans des racines d'arbres qui viennent, par exemple, de l'Himalaya ou d'Inde.
Si, il est commissaire de la prochaine exposition. vernissage le 3 octobre. Et c'est une exposition qui s'appellera « L'Amérique n'existe pas ». Je le sais, j'y suis déjà allée. Voilà. Donc, c'est en fait une image de l'Amérique, mais vue de l'extérieur, et qui n'existe pas, parce que c'est forcément une projection, et puisque c'est une espèce de nation qui alimente à la fois tous les fantasmes et tout le rejet aussi possible, dû aussi à la situation politique actuelle de ce pays, et tout ce qui y est lié. Et donc c'est toute une sélection d'œuvres qui donne à voir l'Amérique, des œuvres d'artistes américains, mais aussi des œuvres qui viennent un peu partout dans le monde. Et en fait, cette exposition a pour point de départ un livre qu'édite Mathieu Morin avec le Frémoc, qui s'appelle « Des pépites dans le goudron ». Et en fait, ça relate un road trip qu'il a fait aux États-Unis à la recherche de créateurs d'art brut, et plus précisément de créateurs d'environnement d'art brut. Donc, par exemple, la Salvation Mountain est assez connue. On l'a vu dans le film Into the Wild. C'est un monsieur qui avait complètement peint toute une zone rocheuse comme ça. Et donc, il y a énormément de gens de ce type. Et il a passé un bon moment à arpenter les États-Unis à la rencontre de ce genre de personnes et de créations. Et il a relaté ça dans ses photos. Et puis, il a relaté ça dans une espèce de journal de voyage qui est assez drôle. Voilà. Et donc le livre sort à l'occasion de l'exposition et il y aura un diaporama de ces photos.
Et aussi une collection exceptionnelle de feuilles de chêne presque fossilisées qui ont été garnies de découpages eux-mêmes faits dans des feuilles séchées. Et ça a été fait par les poilus dans les tranchées. C'était une espèce d'ouvrage d'art dédié à leur amoureuse. Parfois, il y a des scènes érotiques.
Eh bien, ici, c'est un petit ensemble d'animaux sculptés dans le bois, de façon, on pourrait dire, un peu grossière, parce qu'on voit vraiment des angles, et à la fois, on sent qu'il y a vraiment une douceur. Les formes sont très rondes, en fait. Le bois est très doux, presque doré, comme ça. En plus, c'est assez près de la lumière du jour. Et donc, il y a quelque chose de très doux qui émane de ces animaux. On a une chouette, un poisson, une poule, un bouc, un renard. Alors, je les nomme, mais à la fois, c'est mon interprétation, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations qui nous sont données pour les reconnaître. Très peu d'informations aussi parce que c'est un auteur anonyme. Et alors ça, c'est ce qui est chouette aussi dans ce que collectionne Mathieu Morin, c'est que c'est vraiment une collection au coup de cœur. Donc il y a beaucoup d'art outsider, d'art populaire. Et c'est beau aussi de se dire, on n'a pas forcément besoin de connaître la provenance de la pièce pour se laisser toucher par elle. Et là, en l'occurrence, pour avoir envie de vivre avec elle, parce que les œuvres qu'il collectionne, elles sont vraiment dans sa maison. Il vit vraiment avec ses œuvres.
Et aussi une collection exceptionnelle de feuilles de chêne presque fossilisées.
C'est une feuille de chêne et en fait apparaît dessus « Bon baiser ». Et alors c'est dans une calligraphie assez belle, ornée comme ça, avec autour des ornements, une espèce de tige, des petites feuilles. Donc quelque chose d'extrêmement charmant.
Garni de découpages eux-mêmes faits dans des feuilles séchées. Et ça a été fait par les poilus dans les tranchées. C'était une espèce d'ouvrage d'art dédié à leur amoureuse. Parfois, il y a des scènes érotiques. Parfois, il y a le souvenir d'une bataille dans la Somme ou dans la Marne. Des dates. C'est un travail de patience.
Ça n'a pas été écrit sur la feuille, mais en fait, ce qu'on voit, c'est une feuille qui a été complètement ajourée. Et reste de la feuille, ce qu'on voit, c'est-à-dire bon baiser. Donc c'est un peu comme la pratique de la gravure.
Et un travail d'une sensibilité et d'une délicatesse exceptionnelle. Très très belle collection. Et celle-là, c'est encore une autre provenance. Ce ne sont pas des artistes qui créent en atelier, ce ne sont pas des artistes outsiders, ce sont des soldats. Mais quelque part, c'est aussi un art à la lisière. C'est un art de guerre, c'est un art pour occuper ses mains et son cerveau quand tout s'effondre autour de vous.
Donc la plupart des feuilles qu'on a ici On voit des messages assez charmants, donc on a bon baiser, on a des noms de dames, Adèle, Lucienne, parfois accompagnées d'une date, ici je vois 1915. Et puis on a aussi, ici par exemple, je porte bonheur, et bah, c'est un monsieur qui a visiblement un bouquet dans les mains, mais qui est aussi très visiblement nu, avec un énorme phallus apparent. Et tout ça dans une scène très charmante et bucolique. Voilà, on imagine aussi bah, des scènes de pénétration, des scènes plus sexuelles sur d'autres. Ça a vraiment un aspect de dentelle, en fait. Cette feuille ajourée, il y a quelque chose d'extrêmement délicat. Et ça, c'est assez touchant de se le dire, parce que ça a été effectivement produit par les poilus dans les tranchées ou dans les camps tout proches. Parce que ils n'étaient pas toujours au combat et qu'il y avait des longues périodes d'attente et d'ennui. Et on imagine bien que c'était des choses, notamment pour envoyer à la famille, à la fiancée. Mais c'est produit dans la crasse, dans une période qui est franchement pas à la délicatesse et à la joie. Et pourtant, on se retrouve devant quelque chose d'extrêmement délicat et beau.
Lisière. Au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 22 septembre. Avec Sarah Cocotte, Caroline Lamarche et Tatiana Forez. Caroline Lamarche est auteure d'un recueil de nouvelles intitulé « Nous sommes à la lisière » et publié aux éditions Gallimard et couronné du prix Goncourt de la nouvelle 2019.
Alors moi je suis Sarah Cocotte et je suis responsable des publics ici au Art et Marge Musée.
Lisière, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Une exposition qui se tient jusqu'au
22 septembre.
Et ouvert.
Tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le 22 septembre, c'est le jour de Bruxelles sans voiture, que le musée sera gratuit et qu'on organise un atelier ouvert à tous de modelage animé par Clara Marciano, donc l'artiste des petits oiseaux tueurs. Et il y aura aussi un échange de plantes. Donc, toute personne qui vient avec une plante peut repartir avec une autre. Et, intéressant à savoir aussi, c'est que pendant tout le long de l'exposition, si vous venez avec une plante ou une bouture, vous ne payez pas votre entrée. Donc ça vous sert à payer votre place d'expo.
Lors de l'interview, j'ai entendu comme une présence dans la pièce où nous sommes, un bruissement.
vous arrivez un bonjour. Je n'ai plus recueilli d'oiseaux depuis cette canne qui m'a inspiré la nouvelle. C'était quand même il y a 4-5 ans. Et il y a 2 jours est arrivé chez nous un pigeon voyageur épuisé par la chaleur, qui avait très soif. Et j'ai retrouvé son propriétaire grâce à sa bague, et il m'a dit, écoutez, gardez-le une nuit, donnez-lui à boire, des graines, et puis relâchez-le, il reviendra chez moi demain. Et le lendemain, 7h du matin, il faisait beau et clair et frais, avant la canicule, je le relâche. Et à 15h, qui voyons-nous revenir ? Le pigeon voyageur qui avait décidé qu'il était encore fatigué et qu'il avait été bien soigné désormais, que sa maison c'était chez nous. Alors c'est un peu ennuyeux parce qu'on n'a pas de volière. Et donc là, je l'ai mis à l'abri des chats. Il est bien tranquille, il se repose, il mange, il boit et son propriétaire viendra le rechercher demain soir. Voilà, c'est une jolie coïncidence. Et il est très familier, il est très gentil vraiment. Comme pour tout, il y a des bons colombophiles, il y a des colombophiles qui aiment bien leurs bêtes. Celui-ci s'est perdu et il s'en perd beaucoup par temps de canicule. On leur fait faire des concours, on les lâche alors qu'on annonce 30 à 32 degrés et il y en a beaucoup qui se perdent, qui sont assoiffés. Ici, c'est un pigeon flamand qui vient de Diest. Et son propriétaire m'a l'air très bien, il m'a dit non, mais il est intelligent, il est revenu chez vous, il est encore fatigué, il a bien compris que c'était chez vous qu'il serait nourri, et je reviendrai le chercher. Parce que il y a des pigeons qui se perdent et que les propriétaires ne recherchent pas, parce qu'on ne veut pas en tirer de l'argent s'ils se perdent. Mais ici, étant donné la canicule que nous avons, qui est totalement exceptionnelle, je pense qu'ils sont bien conscients que leurs bêtes souffrent et qu'ils sont assez contents quand on leur amène. Il m'a même dit, il est assez malin, ce pigeon-là, hein, je vois bien lequel c'est un tout noir comme ça. Et il a bien compris que chez vous, il serait bien, et donc je viendrai le rechercher. Voilà, l'histoire du pigeon voyageur. Et c'est ça, y a-t-il un nous dans nos vies ? Y a-t-il un nous dans nos vies ? Mes histoires, c'est des histoires d'hommes et de femmes solitaires qui, à un moment difficile de leur vie, voient une bête qui croise leur chemin et en prennent soin. Et prenant soin de cette bête, prennent soin d'eux-mêmes. Et je crois sincèrement que dans ma vie, au moment important, au moment difficile, au moment cruciaux, comme par hasard, une bête croisait mon chemin et j'en prenais soin, et ce faisant, je prenais soin de moi-même.
Lisière, au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 22 septembre.